Mon message,
pardon Seigneur, pardon Seigneur. Est-ce qu'il y a club pour enfants? Non, j'ai vu la sœur qui s'élève. Ah ok, excuse-moi. Hein. Il y a des enfants? Voilà, j'ai intitulé le message « Pardon Seigneur ». Pourquoi? Parce que il faut se demander que faut-il faire lorsqu'on a péché. Car beaucoup, c'est pas qu'ils ne le savent pas, mais ne le font pas. Et c'est vrai qu'on pêche très 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 souvent. Peut-être pas vous, mais moi oui. Et je demande très souvent pardon à Dieu. Dieu est prêt à pardonner si on s'approche de lui comme il faut. Car c'est Dieu qui a stipulé comment s'approcher de lui. On l'a vu déjà dans l'Ancien Testament. Il a dit au peuple d'Israël, « Je vais demeurer avec vous, je vais habiter parmi vous, construisez-moi un tabernacle. » Et il était là. Et aujourd'hui même, pour les saluts, et pour les pardons, il a tout décidé, Dieu. Ce n'est pas aux hommes de décider comment être sauvés ou comment s'approcher de Dieu. Et j'ai choisi les psaumes 51 de David que nous connaissons parce que justement, il parle de pardon. Et David, il nous montre la manière comment il faut s'approcher de Dieu pour obtenir le pardon. Et David, on le connaît tous, hein? Les psaumes 51 et 2 Samuel 11 et 12 qui montrent les agissements de David. On ne va pas les lire, ces chapitres, hein? Parce que ce serait trop long. Mais David, le grand roi, il a fait quoi, David? Premièrement, vous savez, il a laissé ses yeux déambuler où il ne faut pas. Vous vous en souvenez, hein? Il faisait dans une nuit de chaleur, il était dehors sur sa terrasse et il a vu en face de lui, hein, dans une maison, quelqu'un qui s'est baigné. Et alors, il a laissé les yeux sur lui. Regardez, ce n'est pas péché, hein? Mais fixer la chose, là c'est péché. Parce que dans la rue, la publicité, il y a des choses qu'on voit qui ne sont pas chrétiens. On le voit, on a les yeux. Mais les fixer, c'est ce qu'il a fait David. Il a vu, mais il a gardé ce regard dessus. Donc, il a laissé ses yeux vagabonder. Son cœur a convoité automatiquement. Ses pieds, ils l'ont conduit à l'adultère. Parce que cette femme était mariée. Il avait un autre un mari. Ses mains ont préparé un meurtre. Il a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Et ensuite, sa bouche a menti. Pourquoi il a menti? Parce qu'il a envoyé Uri à premier poste pour être tué. Et il a menti par rapport à son général. Voilà tout ce qu'il a fait, cet homme, David. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc ne nous étonnons pas de chacun de nous. Mais il nous montre justement, et c'est un avertissement que nous lisons dans ces psaumes, un avertissement pour chacun de nous. Hein? Et ces psaumes-là, il nous l'a écrit pour nous enseigner. On va d'abord le lire, et ensuite, on va voir ensemble ce que le Seigneur il nous montre à travers ces psaumes. Car c'est David qui l'a écrit. Mais c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui l'a inspiré. Parce que nous avons besoin de ces psaumes pour nous repentir de tout ce que nous pouvons faire contre Dieu. Alors, psaume 51, à partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à toi, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà un beau psaume de repentance. Le verset 1, le verset 2 nous parle de Nathan. Nathan, c'était le prophète que Dieu il a utilisé à la période de David. Vous savez, entre l'adultère et le meurtre, s'est passé un an et demi. Et David, il ne s'était pas tourné vers le Seigneur. Et alors Dieu, il a utilisé le prophète Nathan. Il s'est présenté devant lui. Et il lui a raconté une drôle d'histoire. Il lui a dit, écoute, ô roi, il y avait quelqu'un qui avait une brebis. Et il y avait quelqu'un d'autre qui aimait cette brebis. Et il la voulait absolument. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les possesseurs, les propriétaires de la brebis, et il a pris la brebis. Alors David lui a dit, c'est pas possible qu'il y ait une chose comme ça. Qui sait que c'est comporté comme ça? Dis-moi-les et je vais tout de suite intervenir. Il mérite la mort. Et Nathan lui dit, c'est toi. Lui, il a fait exactement ça. Il a pris la femme d'un autre et il a tué le mari. Voilà, c'est à ce moment-là que David, il a eu la repentance. Et le Seigneur, il lui a donné ces psaumes. Pour, encore une fois, c'est pour notre enseignement. Mais la première chose qu'on peut voir ici, c'est au verset 3. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ici, on voit que David en appelle à la grâce de Dieu. Il sait qu'il mérite la mort. Il sait qu'il est sous le jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il en appelle la grâce de Dieu. Et c'est cela que nous avons fait chacun de nous, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un nous a parlé du Seigneur, il nous a dit que nous étions des pécheurs. Oui, nous méritons les châtiments. Mais c'est quelqu'un qui nous a dit, tourne-toi vers la grâce de Dieu. Car c'est par grâce que Dieu nous sauve. Ce n'est pas que nous méritons, mais c'est par grâce que Dieu nous sauve. Voilà pourquoi David, il en appelle à la grâce de Dieu, à la clémence de Dieu. Car avec nous, nous venons au monde avec le péché. Des gens, je les ai entendus, des gens qui disent, mais si David et Ève l'ont péché, pourquoi moi je dois prendre ce péché à David, qu'eux, ils ont commis. Ce péché, il est en nous, c'est une nature pécheresse. Mais Dieu ne nous condamne pas à cause de ce péché. Dieu, il nous condamne pour nos propres péchés. Mais nous devons nous tourner vers lui, vers la clémence de Dieu. C'est ce qu'il a fait David. Il ne s'est pas dit, oui, mais moi, je suis le roi. Non, non. Il s'est tourné vers le Seigneur. Il a dit, oui, je sais que je mérite toutes ces choses-là, mais fais-moi grâce. Et c'est ça que nous devons faire. Nous mettre, nous blottir sous la grâce de Dieu. Savoir que nous avons un Dieu bienveillant, un Dieu qui pardonne. Mais il pardonne à ceux qui se repentent. C'est ça. Au verset 5, regardez ce qu'il nous est dit. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ici, David, il reconnaît son péché. Il reconnaît son péché. Il ne cherche pas des excuses. Oui, mais vous vous souvenez, Adam et Ève, il appelait Dieu qui appelle Adam. « Où es-tu ?» Il a dit, nous nous sommes cachés. Mais pourquoi tu t'es caché? As-tu mangé de l'arbre? Il a dit, oui. Pourquoi t'as fait ça? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, femme, pourquoi? Ah, c'est le diable, là. C'est Satan. Il ne cherche pas d'excuses. N'en cherchons pas non plus. N'en cherchons pas non plus. Il y a tellement de choses que nous aimons, n'est-ce pas? Et beaucoup, ils aiment tellement ces choses qu'ils essaient de les voler. Je vous ai donné un jour le témoignage, n'est-ce pas? Et j'étais chrétien. Hein? J'étais au magasin Leclerc. J'ai vu un beau tapis à l'entrée. Je me suis dit, il serait bien à la maison. Et c'était à l'entrée, hein. J'ai regardé à droite, à gauche, j'ai oublié de regarder là-haut. Hein. J'ai pris le tapis, je l'ai roulé, et je l'ai placé dans la voiture, dans le coffre déjà. Donc j'étais... Je m'assois, et là, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que j'avais mal agi. Que j'avais péché. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Aldo? Il ouvre les coffres, il prend les tapis, il regarde toujours à droite, à gauche, et il le remet en place. Lorsqu'on pêche, il n'y a pas d'excuse. C'est nous qui avons péché. Ne cherchons pas un autre responsable. Dieu, il aime ça. Et David, il le fait. Il reconnaît son péché. Oui. Je reconnais que c'est moi qui ai fait ces choses-là. Donc je mérite la mort. Mais encore une fois, il se tourne vers le Seigneur, vers la grâce de Dieu. Hein? Vous savez, lorsqu'on reconnaît notre péché, qu'est-ce que c'est que nous devons faire? Il faut que nous nous mettions à genoux et que nous implorions vraiment la grâce de Dieu. Et Dieu, il le fait, pas pour nos beaux yeux, hein. Mais il le fait parce que son fils, il a donné sa vie. Il a pris tout ça sur son propre dos. Et il agit envers nous par grâce. Voilà pourquoi nous devons nous mettre à genoux. Hein, et reconnaître que peut-être que notre vie, peut-être, elle va en ruine ou elle est dans la misère, justement parce qu'on a des péchés dans notre cœur. David, il ne s'en apercevait pas, il est resté un an et demi. Peut-être que c'est une période difficile dans sa vie, mais il ne s'en apercevait pas. Des fois, on regarde devant nous, mais on ne regarde pas en nous. Des fois, on fait ça pour indiquer quelqu'un. Ah, c'est lui. Mais il y a les doigts vers toi d'abord. Hein. Regardons-nous d'abord. Autre chose qu'on peut voir ici, le verset 5, deuxième partie. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. Le verset 10, deuxième partie. Et les os que tu as brisées, les os brisées. Et au verset 19 aussi, il dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et ici, David, il est affligé par son péché. Combien de nous, lorsqu'on a péché, nos os, ils sont en mauvais état, ils sont brisés. Notre esprit est brisé. Nous sommes dans la tristesse. Mais aujourd'hui, on vit un christianisme qui est éloigné de toutes ces choses-là. On pêche, oui, on dit, bon, je demande pardon à Dieu, mais voilà. Au lieu de se dire, oui, j'ai péché, j'ai péché contre Dieu. Je suis attristé de cela. Parce que je sais ce qu'il a coûté mon péché. Jésus a été crucifié pour cela. Et David, il nous le dit, il est affligé par son péché. Il était triste, voilà pourquoi à un certain moment il a dit, rends-moi la joie. Parce qu'il était triste. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas en communion avec Dieu, est-ce que nous sommes dans la joie? Je parle de la joie du cœur, hein? Parce que hein, pour les autres peut-être, on est toujours en train de rigoler et tout ça. Hein? Mais la joie de Dieu, il dit, rends-moi la joie. La joie, c'est à l'intérieur de chacun de nous que se trouve la joie. Et si cette joie, il n'y est pas, nous, notre vie est en ruine. Même si aux yeux des autres, cette vie, il paraît heureuse. C'est ça. David, il s'affligeait pour son péché. Lorsqu'on prend le péché au sérieux, Dieu nous fait grâce. Et pas dire seulement, ben voilà, j'ai volé, j'ai fait ça et ça. Je m'en souviens quand j'allais chez les catholiques pour la confession. Qu'est-ce que c'est qu'on faisait là? On énumérait les péchés et ensuite le prêtre, bon, tu diras 5 paternostres, 5 Ave Maria. Et voilà, c'est bon. Et les gens, ils s'en vont tranquillement. À qui devons-nous confesser les péchés? À Dieu. Car c'est lui qui pardonne. Et nous devons être, encore une fois, affligés par ce que nous avons fait. Voilà ce que David faisait. Regardez au verset 4. David, il est affligé, il fait quoi? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi, lave-moi. David, il demande à être purifié. Comment on peut être purifié sinon? On ne peut pas. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Et c'est en allant au pied de cette croix que nous pouvons recevoir cette purification. Et David, il dit, l'hysope, hein, lave-moi avec l'hysope, au verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pour être purifié dans l'Ancien Testament, ils utilisaient l'hysope. C'était une branche hein, d'un arbre, ou je ne sais pas quoi, hein, c'était une branche d'herbe. Et c'est avec ça qu'il est trempé dans les sangs et aspergé le peuple ou sous l'arche de l'Alliance. Mais aujourd'hui, David, il disait ça, « Asperge-moi avec l'hysope de ce sacrifice, de cette bête qu'il a été tuée, immolée. » Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, nous n'avons plus besoin de l'hysope. Pourquoi ? Parce que nous avons le sang de Jésus-Christ. Et ce sang de Jésus-Christ, il purifie tout péché. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Je l'avais dit un jour, Odin, que le sang de Jésus-Christ, c'est la meilleure lessive au monde. Aucune tâche lui résiste. Aucune. Voilà pourquoi David, il dit, purifie-moi. Et c'est ça le cheminement, vous savez, à faire. Le peu qu'on a vu, David, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il en appelle à la grâce de Dieu, il reconnaît son péché, il reconnaît l'ampleur de son péché. C'est un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre Dieu. Je n'ai pas péché contre un frère, mais j'ai péché contre Dieu. Et ensuite, David, il s'afflige. Il s'afflige de son péché. Et il demande à être purifié. C'est toutes ces étapes-là qu'il faut, que chacun de nous par lesquelles il doit passer. Et aussi, au verset 10, regardez. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et au verset 13 aussi, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ici, David, il demande à retrouver la joie. À retrouver la joie. Il ne suffit pas d'être pardonné par Dieu, mais il faut demander de nous donner la joie. La joie. La joie d'être enfant de Dieu. La joie de nous avoir fait rentrer dans la famille de Dieu. Vous savez, c'est très important. La dernière pensée du Seigneur sur la croix, il a été pour sa mère. Vous en souvenez, cette phrase qu'il a dit? Il a dit, femme, voilà ton fils. Mais Marie, il avait d'autres fils. Jean, il n'était pas sa famille. Mais Jésus, il a dit, femme, voilà ton fils. Pour dire, voilà, ton fils, c'est la nouvelle famille que Jésus-Christ a créée. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on a une nouvelle famille. On rentre dans la famille de Dieu. C'est la dernière pensée qu'il a eue, Jésus, pour sa mère. Il aurait pu lui donner aux autres frères, parce que Jésus, c'était les premiers. Donc, automatiquement, dans l'Ancien Testament, les premiers étaient responsables, parce que le mari, il était décédé, donc elle était seule, elle était veuve. Donc, c'était au premier-né à s'occuper. Il aurait dit, bon, voilà, maintenant tu dis à mes frères de s'occuper de toi. Non, il a dit, voilà ton fils. Voilà ton fils. Voilà ta nouvelle famille. Et c'est elle, et c'est lui, c'est elle qui va s'occuper de toi. C'est exactement la même chose. Et lorsque le Seigneur nous donne la joie, David il dit de retrouver la joie. Si on a la joie du Seigneur dans notre cœur, on est heureux, content d'être avec les frères et sœurs. Si on a la joie du Seigneur, on est content de participer aux études. Si on a la joie de Dieu, on est content d'apporter une consolation ou un soutien à un frère ou une sœur qui en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il est mon frère, parce qu'il est ma sœur. Et ça, on ne peut le faire que si on a la joie du Seigneur. Voilà pourquoi David, il dit, rends-moi la joie. C'est exactement la prière. Et qui c'est qui nous donne cette joie? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Voilà pourquoi il prie l'Esprit. Regardez aussi les versets 12 et 14. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Il demande pas seulement la joie, mais un cœur nouveau, un cœur régénéré, un cœur purifié de tout péché, un cœur nouveau. Et c'est là, David, il connaissait ces choses, il connaissait les prophéties. Dans Jérémie, il nous est dit, dans le chapitre 31, il dit, « Je ferai une nouvelle alliance avec vous, je vous donnerai un esprit et un cœur nouveau. » Et dans cette nouvelle alliance, comme je dis toujours, la nouvelle alliance, ce n'est pas pour nous, c'est pour Israël. Ce n'est pas pour nous. Parce qu'il ne faut pas confondre Israël et l'Église. Ce sont deux entités différentes. Ce n'est pas pareil. Vous lisez la Bible, c'est marqué que la nouvelle alliance, Dieu, il va l'établir avec Israël. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous rentrons dedans dans cette même alliance. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il va nous donner la même chose et en avance de ce qu'il va faire avec Israël. Lorsqu'on s'est converti, qu'est-ce que c'est qu'on a reçu ? Un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est le Saint-Esprit. Et c'est les choses que Dieu il a promis à Israël. Et un jour, il va le faire. Mais nous y rentrons dedans par et grâce à Jésus-Christ. C'est ça les enseignements de la Bible. Et lui, David, il demande un cœur nouveau. Non seulement il se détourne de ses péchés, mais il veut se donner entièrement. Et Paul, il nous le dit, si on est né de nouveau, tout ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Toute chose devient nouveau. Ce qu'on faisait avant, c'est terminé. Ne demeurons pas dans notre ancienne vie. Pourquoi ? Parce que nous avons été changés. Nos pensées ne doivent pas être nos anciennes pensées, mais tout doit être concentré, il doit être dirigé vers Jésus-Christ. Et Paul nous dit, ayez les mêmes pensées de Jésus-Christ. Et si on a ces pensées-là, nous arriverons à nous éloigner du péché. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que Satan il est devenu moins puissant, mais parce que nous avons la force de Dieu. Lorsque nous sommes convertis, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous pouvons dire non au péché. Nous pouvons. Mais est-ce que nous le faisons ? Car lorsqu'on pêche, ce que nous n'avons pas fait ça. Voilà pourquoi le cœur nouveau. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite, verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Lorsqu'on a été purifié, lorsqu'on a reçu un cœur nouveau, qu'est-ce que c'est que David il fait ici ? Il s'engage à servir Dieu. J'enseignerai à ceux qui ne te connaissent pas. C'est la suite. Quelqu'un qui dit, je suis chrétien, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Automatiquement, il doit servir. On l'a vu ce matin avec le frère Jean-Pierre. Le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour mon service. C'est ça. Et c'est ça que David, il dit. Je vais enseigner, je vais diriger tout ton royaume, je vais le diriger vers toi. Je vais diriger mon peuple vers toi. Car il n'y a qu'en toi qu'il y a la paix, le repos et la joie. Et nous devons faire exactement pareil. Vous savez, un pécheur pardonné, tel que nous, quelqu'un a dit, un pécheur pardonné devient un prêcheur. Prêcher quoi ? Prêcher la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. qu'il y a un espoir pour tous ceux qui se tournent vers le Seigneur. D'ailleurs, même toujours dans Jérémie, il nous dit, j'ai de l'espoir, j'ai de l'avenir pour toi. Ça ne vous est pas arrivé de dire, mais qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que je vais devenir? Si nous avons le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous avons un avenir. Nous savons où est-ce que nous allons. Nous savons comment nous devons vivre. Et nous savons où est-ce qu'il est notre demeure. Tout ce qu'il y a ici-bas, c'est de la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Salomon, il le dit, j'ai fait ça et ça et ça. Mais pourquoi je fais ça? Mais si nous appartenons au Seigneur, nous avons un avenir. Et cet avenir, c'est dans les services. Nous avons été sauvés pour servir. Et pas pour autre chose. Pas pour rester assis sur les chaises. C'est s'élever. Lève-toi. Comme il avait dit l'ange à Élie, vous en souvenez? Il avait peur de Jézabel. Hein, il voulait le tuer, et il s'est enfui, et il s'est caché. Un ange lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois aller prêcher. Il a dit, non, ils veulent me tuer et tout. Et il lui a dit, lève-toi. Il était fatigué, il a dit, mange. Et il lui a donné à manger et à boire. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il s'est recouché. Une deuxième fois, il y va. Il lui donne à manger et à boire. Là, il a dit, lève-toi. Là, il est parti. Là, il est parti. Et nous avons été sauvés pour cela. Hein? Et au verset 15, j'enseignerai tes voies. Verset 20, il dit, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis le mur de Jérusalem. Ici, il prie en faveur de l'Église, de Sion. Hein? La Sion, pour nous, c'est l'Église. Il faut prier pour l'Église. Que le Seigneur il nous donne la force de pouvoir avancer et de ne pas nous garder sur nos acquis, comme ils font aujourd'hui, hein? La SNCF, le RATP, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans le monde. Nous, l'Église, nous devons avancer. Pourquoi? Parce que tout en nous a été changé. C'est un nouvel aldo, une nouvelle vie, un nouveau engagement que nous devons avoir. Et David, il prie pour toutes ces choses-là. On a vu que David, il en appelle premièrement la grâce de Dieu. Il reconnaît son péché. Il reconnaît l'ampleur de son péché, la gravité de son péché. Il s'afflige pour le péché. Il demande d'être purifié. Il demande de retrouver la joie. Il demande un cœur nouveau. Il s'engage à servir Dieu. Et il dit, je vais prier pour Sion, pour Jérusalem. Pour nous, c'est prier pour l'Église. Pour que notre Église avance, pour que nous puissions marcher tous, main dans la main, et que nous puissions aller et obéir au dernier commandement que le Seigneur nous a donné. Allez partout, annoncez la bonne nouvelle, faites des disciples. Notre frère, dimanche dernier, vous vous souvenez, le frère Karim, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Pourquoi annoncer des disciples? Pour les convertir, pour qu'ils viennent là? Non, nous devons en faire des disciples. Des disciples. C'est ça être un chrétien, être un disciple. Pour que nous puissions aller tous pour servir le Seigneur, en annonçant cette bonne nouvelle à tous ceux qui encore ne le connaissent pas. Et le Seigneur, il nous le dit. Hein. Nous devons dire aux gens que ce que le Seigneur il a fait pour moi, il est prêt à le faire pour vous. Bien sûr, si on se présente devant les personnes avec un visage, nous devons montrer la joie que nous avons dans le Seigneur. Et c'est cela que nous devons porter vis-à-vis du monde. La joie d'être chrétien. Mais toutes ces choses-là, une fois que notre cœur a été purifié, lavé, c'est alors que nous avons la communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons terminer...